Merci beaucoup, Carole, et merci à Jean-Jacques Hublin d'avoir eu l'initiative de ce colloque, juste ici, très, très, très riche et intéressant. Et donc, je vais vous parler à présent de littérature. Et il y a beaucoup à dire sur la littérature. Je ferai quelques choix qui seront évidemment subjectifs en fonction de mes goûts dans toute la profusion. Allez-y. Dans toute la profusion de ces textes. Alors, la préhistoire raconte. Elle raconte les aventures des pionniers et des découvreurs, les trouvailles de squelettes fossiles et d'outils de pierre taillée, d'objets sculptés dans l'os ou l'ivoire. Elle raconte la révélation éblouie des grottes ornées de peintures polychromes et les controverses qui se sont développées à leur sujet des décennies durant. Surtout, elle raconte l'avènement et le devenir de l'homme au long d'un itinéraire jalonné de transformations et d'inventions, d'extinctions, de migrations et de rencontres. La fiction est rendue nécessaire dans les sciences de la préhistoire par la nature fragmentaire de leurs preuves qu'il faut mettre en intrigue pour raconter une ou des histoires. Transformation de l'environnement et des climats, scénario d'évolution de l'homme, histoire des progrès de ces cultures qui l'ont mené jusqu'à ce que nous sommes. En retour, les savoirs de la préhistoire se trouvent appliqués, impliqués dans des œuvres de fiction. Depuis plus de 150 ans, tout un ensemble de textes littéraires, romanesques, poétiques, méditatifs, philosophiques même, sont produits avec une extraordinaire profusion et souvent avec une certaine inventivité. À côté des sèches descriptions et des classifications des vestiges osseux ou lithiques, à côté des textes de grande vulgarisation et de diffusion de la science populaire, il y a place pour des romans, des poèmes, des essais, pour une écriture qui tente de donner vie aux êtres éteints du passé. Si grande est la tentation pour les préhistoriens eux-mêmes de raconter des histoires et de diffuser ainsi les connaissances qu'ils ont produites au plus grand nombre, que beaucoup d'entre eux se sont lancés dans l'écriture romanesque. Adrien Arcelin, découvreur du site de Solutré, signe d'un anagramme transparent, Cranil, le premier récit d'aventure préhistorique, Solutré ou les chasseurs de rennes de la France centrale, en 1872. François Borde publie des nouvelles de science-fiction sous le pseudonyme de Francis Carsac. Les paléontologues et les préhistoriens d'aujourd'hui, d'Yves Coppens à Pierre-Yves de Mars et Jean Guilaine, n'hésitent pas à offrir au public la mise en récit de leur savoir sous une forme romancée. Alors, Elisabeth présentait à la recherche des identités perdues, et moi je vais vous parler de la recherche du temps perdu, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, avec la préhistoire. À côté des reconstitutions sculptées, dessinées ou peintes, l'écriture donne chair aux êtres du passé profond, les représente avec lyrisme, humour, fantaisie. La préhistoire s'inscrit ainsi pleinement dans notre monde, ou plutôt dans les différents mondes qui lui ont donné jour. Et ce n'est pas un hasard si nos plus grands écrivains, de René Char à Pierre Michon, de Philippe Solers à Jean Rouault et à Pascal Quignard, ont inclus la préhistoire au sein de leur géographie mentale et de leur univers poétique. À l'aube de la modernité littéraire, Marcel Proust inscrivait le temps profond de la préhistoire dans sa recherche du temps perdu, jusqu'à presque s'identifier lui-même à un homme préhistorique. Il écrit « La seule chose un peu triste dans cette chambre de Lally » était qu'on y entendait le soir, à cause de la proximité du viaduc, les ululements des trains. Mais comme je savais que ces beuglements émanaient de machines réglées, ils ne m'épouvantaient pas, comme auraient pu le faire, à une époque de la préhistoire, les cris poussés par un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée, lit-on dans les dernières pages du temps retrouvé. Pascal Quignard, admirant les fresques néolithiques du Stacili, répond en écho à Proust, c'est un temps perdu qui fait signe à un temps perdu. Notre monde aussi est devenu une forêt de pierre. Nos grands oiseaux sont en acier et hurlent en passant au-dessus de nous. Nos quadrupèdes sont en tôle. Là-bas, dans les trous des roches brûlantes, depuis 13 ou 14 000 ans, dans le silence, veillent des girafes peintes sur des souvenirs d'eau. Temps perdu, en effet, tel est le problème auquel s'affrontent les romanciers de la préhistoire. Le paradoxe du roman préhistorique, c'est qu'il se situe au carrefour de plusieurs échelles de temps. D'une part, la tentative de reconstituer la vie quotidienne de ces périodes, et d'autre part, celle de retracer, sur la longue durée des temps géologiques, le devenir de l'humanité. Pour conjurer l'immensité du temps, certains récits se présentent sous la forme d'un voyage dans le passé, soit en rêve, soit en réalité, effectué grâce à quelques machines à remonter le temps ou dans l'espace, profondeur de la Terre, île ou plateau resté vierge et inconnu des hommes, pour retrouver intacts et vivants les mondes du passé. C'est le cas, par exemple, du voyage au centre de la Terre de Jules Verne, où les héros pénétrant par un volcan, par la bouche d'un volcan, se retrouvent au fond de la Terre et y voient, miracle, un homme fossile. Texte daté de 1863. C'est le cas du monde perdu de Conan Doyle, de l'île du docteur Moreau de Wells. Le voyageur est à la fois un observateur émerveillé et terrifié de ces mondes du passé et un acteur qui se trouve pris dans les énigmes, dans les intrigues de ces temps révolus, tout en pouvant évidemment s'en échapper à volonté. L'écrivain américain Jack London résout à sa manière le problème dans un récit intitulé « Avant Adam », publié en 1907, qui se veut explicitement un hommage à Darwin, Spencer et Huxley. S'inspirant des théories de Weissmann sur la mémoire biologique retenue dans le plasma germinatif, il évoque les réminiscences chez un enfant de sa vie primitive. Les rêves de chute seraient des souvenirs de chute véritable, celles de notre passé préhistorique, lorsque nous vivions dans les arbres. Ainsi, le rêve est porteur de la vérité du passé. Le récit met en scène des personnages, pour certains très primitifs, comme les hommes des arbres, le sanguinaire œil rouge, d'autres plus évolués, plus intelligents, comme le héros lui-même ou celle qu'il aime, la rapide. Il s'efforce de recréer la vie quotidienne en cette période reculée de l'histoire humaine. Jack London évoque les inventions techniques et même un essai de domestication du chien et insiste sur l'absence, à ce stade primitif, d'une véritable solidarité entre les hommes. Pour London, les hommes ont acquis leur force et leur puissance sur le monde par l'union, la solidarité que permet la communication et le langage. Alors, je voudrais revenir sur ce tournant du XXe siècle, qui est vraiment, à mon sens, l'âge d'or du roman préhistorique, ou en tout cas le moment où il se développe d'une façon considérable. En mai 1913, la préhistoire s'invite sur le théâtre des Champs-Élysées à Paris. Le ballet « Le Sacre du printemps » de Stravinsky fait scandale avec ses scènes de l'âge de pierre incarnées par les rythmes martelés, répétés, syncopés et les accords dissonants de sa musique. Son argument, qui met en scène une tribu préhistorique célébrant le réveil printanier de la nature par le sacrifice sauvage d'une jeune fille, à quoi répond dans la salle un pugilat mémorable, redoublant ainsi la sauvage primitivité incarnée sur la scène. Dans le même temps, le public parisien peut lire en feuilleton, dans le journal, un magazine, un des plus beaux récits qui ait jamais été écrit sur l'homme fossile. Un récit sous la plume d'un poète qui traduit l'avènement du premier regard humain sur le monde. Je vais vous en lire un petit morceau. Il advint, cet été-là, que le vent du nord-est souffla plus fréquemment qu'à l'ordinaire. L'averse s'interrompait par instants et le couple regardait avec stupéfaction resplendir dans le ciel de furtives trouées d'azur. Hoc prenait plaisir à les apercevoir. Chaque fois qu'on traversait une clairière, elle levait la face vers le ciel étonnant, d'où l'eau ne tombait plus, et elle tendait les bras vers lui pour recevoir sur sa poitrine les rayons du soleil. Sous la chaleur de cette caresse, elle riait en contemplant sa chair illuminée. Elle en était heureuse, presque fière, et elle la montrait. « Da !» L'homme ne jouissait guère moins que la femme de ce plaisir si rare. Afin de le mieux goûter, ils vinrent au bord de la falaise. Accroupis dans l'herbe, le dos tourné à la lisière de leur forêt, ils avaient devant eux l'étendue profonde où des clartés jouaient sur le fleuve et les îles. L'atmosphère chargée d'une poussière d'eau vibrait jusqu'aux collines du lointain. Des nappes d'ombre diaphanes, alternant avec des lueurs qui s'argentent, galopaient sur les dômes des arbres bleuis et l'arc-en-ciel leur apparut. Après, il faut lire la suite, c'est très très beau. Voilà, c'est l'apparition de l'arc-en-ciel pour la première fois aux yeux des hommes les plus anciens. L'écriture poétique d'Edmond Harcourt retrace les impressions de Da, le premier homme, et de sa compagne, Hoc, tour à tour apeuré, curieux ou émerveillé, découvrant la mer, l'arc-en-ciel, la neige, leur ombre ou le reflet de leur propre visage dans l'eau. Avant de s'intéresser aux états d'âme de l'homme fossile, Harcourt s'était illustré dans la poésie érotique. Ami de Debussy, de Fauré, proche de Lecomte de Lisle et de José Maria de Heredia, il vit la bohème littéraire. Il est un habitué du Chat Noir et publie en 1882 « L'allégeance des sexes », poème hystérique. Il est également l'auteur d'un poème sur les Vikings qui lui vaudra le Grand Prix de poésie d'Académie française. Il devient en 1892 le directeur du musée de Trocadéro, puis de 1903 à 1925 du musée de Cluny. Avec Da, Haraucourt tente une paléogénèse, c'est son propos, une paléogénèse de la pensée humaine. L'homme, idéaliste à sa manière, rêveur éduqué par la lutte et exaspéré par la peur, fut poète avant que de raisonner, écrit-il. Et il peint dans une succession de chapitres courts l'éveil des premiers sentiments de peur, de pitié, d'amour, prêtant à son homme, à son premier homme, une inquiétude, une morbidezza qui est déjà une forme d'intelligence. À l'abri du front bas que mangeait la chevelure, les arcades sourcilières violemment accusées retombaient pour former deux grottes au fond desquelles les yeux s'agitaient comme deux bêtes inquiètes. Ada, donc, il attribue toutes sortes de découvertes, la mer, l'invention de l'infini. Ainsi, au tournant du XXe siècle, le roman préhistorique conquiert ses lettres de noblesse jusqu'à accéder à la dignité d'un véritable genre littéraire. Les thèmes de la préhistoire prennent alors une dimension onirique, lyrique et grandiose. Sous la plume de Rony Aîné, ils vont susciter une prose poétique, évocatrice de mondes étranges et mystérieux. Rony, que vous connaissez sûrement pour être l'auteur de La guerre du feu, publié en 1911, est le pseudonyme de Joseph-Henri Boëtz. Il est né à Bruxelles en 1856. Avant d'écrire des romans préhistoriques, il publie plusieurs nouvelles et romans en collaboration avec son frère, Rony Jeune, d'où le nom de Rony Aîné. Puis à partir de 1891, il inaugure le cycle de ses romans préhistoriques. Ainsi paraît en 1892 Vamiret, que suivront en 1896 Erima, Hélème d'Asie, en 1898 Nomaille, Amour étrusque, et Amour lacustre, pardon. Et en 1911, La guerre du feu, puis en 1920, Le félin géant, roman des âges farouches, qui est la suite du précédent. Donc La guerre du feu reste le plus célèbre de ces romans. L'histoire est située il y a 100 000 ans et applique les savoirs paléontologiques et anthropologiques de cette époque et aussi les représentations idéologiques et en particulier raciales contemporaines. Pré-sapiens, confronté à des animaux préhistoriques, au froid de l'époque glaciaire, et à plusieurs races ou espèces d'hommes-singes ou demi-hommes dont Rony invente les caractéristiques et les dénominations. Homme sans épaules, Xam dévoreur d'hommes, nain rouge, homme aux poils bleus. Le roman applique certaines des hypothèses de l'archéologie préhistorique de l'époque, culture matérielle, cannibalisme, conquête du feu, mais en réalité, l'outillage lithique est réduit, toutes époques confondues à sa plus simple expression. Il s'agit d'une massue, d'une sagaie, parfois d'un propulseur. Sous le vernis scientifique affleurent des procédés narratifs, voire des clichés, qui empruntent aux contes de fées. On y reconnaît la partition binaire, manichéenne des personnages, le bon, le beau, le fort, et de l'autre côté, le méchant, le cruel et bestial, et le rythme ternaire des épisodes propre au schéma narratif du conte. Il s'agit ici, comme dans les contes, de rapporter le feu pour conquérir la belle et devenir le chef. Au retour, le héros rapporte triomphalement non seulement le feu, mais les mains des trois méchants, les frères Agou. Le roman tient ainsi du mythe. La guerre du feu reprend le mythe de Prométhée et le rapt d'Hélème, raconté dans Vamiret, semble emprunté à l'Iliade. Dans ses romans, Rony convoque un vocabulaire aux sonorités précieuses et barbares, une prose lyrique émaillée de noms latins et de la nomenclature scientifique qui laisse un souvenir ineffaçable. Sans doute, beaucoup de nos idées reçues sur la préhistoire, celles qui circulent de nos jours dans la littérature et les films de vulgarisation, les bandes dessinées, les manuels d'enseignement et les textes scientifiques eux-mêmes, viennent-elles plus ou moins directement de ces romans préhistoriques nés au tournant du XXe siècle ? Un certain romantisme, une poétie épique de ces temps originels, de ces âges farouches, comme nous ont appris à dire les romanciers et les auteurs de BD, ont été façonnés par ces fictions romanesques qui s'enracinent elles-mêmes dans un fond mythique et légendaire très ancien, mais aussi dans un contexte sociopolitique et scientifique particulier. Alors, et vous voyez qu'il y a ici convergence dans ce célèbre tableau, hein, la fuite de Caïn, de Cormon, il y a convergence dans les romans préhistoriques des mythes, mythes bibliques en particulier, ou mythes ou mythes antiques, de la préhistoire et de l'imaginaire littéraire. Vous savez que ce tableau, la fuite de Caïn, donc, est à la fois une évocation de la Bible, une évocation de la préhistoire et aussi une évocation de Victor Hugo à travers son fameux poème sur « L'œil était dans la tombe et regardez Caïn ». Donc on a la même chose en littérature, en fait, et c'est la même époque. Alors je vais vous parler maintenant un peu des hommes de Néandertal. Les hommes de Néandertal, dont il a été un peu question déjà, puisque je vous ai parlé de ces fameux frères Agou dans le roman de Rony, et ce sont des Néandertaliens, il semble. Donc les hommes de Néandertal et leur tragique destin habitent depuis 150 ans les fictions préhistoriques. Quoi de plus romanesque en effet que la rencontre à l'aube du paléolithique supérieur entre sapiens et néandertaliens ? Quoi de plus mystérieux que la rapide extinction d'humains qui avaient pourtant survécu des centaines de milliers d'années, parfois à des conditions climatiques extrêmes. Quoi de plus fascinant pour l'imagination que ce moment crucial, fondateur de notre histoire. La plupart de ces romans incluent un portrait obligé du néandertalien et, en fonction des savoirs et des représentations d'une époque, tentent avec plus ou moins de succès de reconstituer son langage, exploitent les fantasmes d'une hybridation possible ou le thème non moins sensationnel d'une persistance des néandertaliens jusqu'à nos jours. Si beaucoup naviguent sur la vague des lieux communs et des images convenues, quelques-uns réussissent à se dégager des poncifs et à proposer une interprétation, voire une écriture originale. Alors ici, c'est une représentation très propre à cette aube du XXe siècle, qui est due à Herbert George Wells, qui écrit « Le souvenir lointain de ces monstres à l'allure de gorille, au cerveau rusé, à la démarche traînante, au corps poilu, aux dents fortes et sans doute aux tendances cannibales, pourrait être à la source de la figure populaire de l'ogre des contes. » Ici, il s'inspire largement de cette image quasi mythique pour évoquer, donc, dans cette nouvelle de Grizzly Folk, 1921, la figure de ce monstre hirsute et cruel, à la laideur repoussante, destiné à être anéanti sans pitié, et elle n'est pas sans analogie avec la figure qu'avait forgée Marcelin Boule dans les deux volumes de 1911-1913 consacrés à l'homme de la chapelle aux saints. Et on sait que cette image de Kupka, pour étonnante qu'elle soit, est bien une commande par Marcelin Boule d'un portrait de l'homme de Néandertal, qui incarne donc sa vision de cet être brutal et grossier. Depuis le milieu du XXe siècle, tandis que les paléontologues s'efforcent de réviser les conceptions attachées, ou les clichés même attachés à l'homme de Néandertal, certains romanciers en offrent un portrait plus nuancé. En 1955, William Golding situe son roman « Les héritiers », « The Inheritors », 1955, n'a pas été traduit, il y a quelque 40 000 ans en Europe. Golding réussit à incarner dans des dialogues simples l'intelligence lente, la pensée lourde, l'univers limité qu'il prête au Néandertal, leur attribuant un émouvant sens du groupe et une fruste pensée magique. Il nous fait partager l'existence de ces derniers néandertaliens, troupes misérables, survivant dans une nature hostile et glaciale, tenaillés par la faim, la maladie, la peur, tentant de préserver un semblant de vie collective et des lambeaux de croyances ancestrales. L'arrivée des autres, les sapiens, est vécue comme un véritable drame, à la fois matériel et psychologique, qui dépasse leur compréhension, qui mobilisent toute leur primitive intelligence. Et c'est vraiment cette exploration d'une intelligence qui n'est pas la nôtre, à travers un langage extrêmement fruste, que William Golding a vraiment réussi ce roman. Il a réussi à montrer une altérité à travers son écriture même. Un autre roman, parmi tous ceux qui existent, évidemment, suscite mon admiration. C'est « La danse du tigre » de Bjorn Curtin, que vous connaissez peut-être. Je crois qu'il n'a pas non plus été traduit en français. « The Dance of the Tiger, A Novel of the Ice Age » 1978, qui propose un scénario au double sens d'un récit de fiction et d'un modèle scientifique. Le paléontologue finlandais imagine la rencontre. Alors ça, c'est une image des Néandertaliens fourbus qui allaient avec le... C'est une image qui est due à Zdeněk Burian, l'illustrateur tchèque. Alors la rencontre, donc, sur une île scandinave, durant un bref épisode de réchauffement entre moins 30 000 et moins 20 000, de Néandertaliens, vieux habitants de ces contrées nordiques, avec les sapiens venus des régions tropicales. À l'opposé de la représentation habituelle, qui allie primitivité et peau sombre, Curtin imagine des Néandertaliens à la peau blanche. 20 000 générations, dans les terres couvertes de neige, aux hivers longs et aux étés courts, avaient déteint leur peau et leurs cheveux jusqu'à les rendre blond clair. L'égalité des hommes et des femmes se reflétait dans leur ressemblance de stature et de forme. Organisés en un régime matriarcal, ces Néandertaliens sont d'une politesse raffinée et d'une extrême déférence envers leurs prochains. Quant aux sapiens, à la peau noire et à la chevelure couleur de jais, les marques de leur domination étaient leur fière stature, leur menton proéminent, leur crinière de cheveux qui flottait derrière eux, leur cou délicat, leurs épaules larges et leurs hanches minces. L'aspect néoténique des sapiens, c'est-à-dire la rétention chez l'adulte sapiens de caractères infantiles, partagé par les enfants néandertaliens, serait une adaptation, selon Björn Curtin, destinée à désarmer l'adversaire pour l'anéantir. Je cite, « Pour les Blancs, les Noirs étaient comme des dieux. Ils étaient grands et éloquents. Leur langue était aussi variée et souple que le babil des oiseaux. Mais il y avait quelque chose de plus. Les Blancs ne pouvaient pas voir le front lisse et bombé des Noirs sans ressentir une mystérieuse tendresse, pareille à celle que la vue de l'enfant fait naître au cœur de ses parents. De cette mystérieuse attirance naissent des liens amoureux. C'est ici que le roman noue inextricablement l'intrigue sentimentale avec le modèle biologique. Car la multiplication des unions entre les deux espèces, et donc d'hybrides, surtout enfants de femmes néandertaliennes qui recherchent ces unions avec des hommes sapiens, dont la descendance est stérile, aboutit à terme à la disparition des Néandertaliens. Selon le modèle démographique proposé par Curtin, ce n'est donc pas la guerre avec les sapiens, mais l'amour qui a scellé leur destin et conduit à l'extinction de leur espèce. Le roman exploite le caractère émouvant, romanesque, dramatique des situations vécues, sous-tendu par l'enchaînement implacable du déterminisme biologique. Il propose un modèle cohérent pour élucider à travers la trame romanesque à la fois la différence biologique entre sapiens et néandertaliens, la nature de leur cohabitation et la question de l'extinction de ces derniers. Le modèle ici proposé ne se prétend pas définitif, mais le récit de Björn Curtin donne un exemple remarquable de la manière dont la fiction et l'écriture romanesque peuvent rejoindre l'imagination scientifique. Et on peut dire que certains éléments de ce scénario de 1978 se trouvent plus ou moins vérifiés aujourd'hui. L'idée de la peau blanche des Néandertaliens, qui n'était pas du tout admise à cette époque-là, l'idée d'une hybridation et de la stérilité des hybrides, etc., sont des choses qu'on pense aujourd'hui presque dans les mêmes termes. Et là, c'est donc ce renouvellement de l'image du Néandertalien que nous devons à Elisabeth Desnes, hein, avec des expressions beaucoup plus tendres et humaines que celles qu'on avait vues précédemment, et puis une vie sociale complexe et organisée. Voilà. Donc maintenant, dernière question, quelle place pour les femmes ? Longtemps, dans ces récits virils, pleins de fougue, de lutte à mort ou de combat contre les bêtes féroces, la femme n'a eu que le rôle d'un enjeu ou d'une proie. Et son apparition, dans beaucoup de ces textes, n'est le plus souvent prétexte que à un renouveau de la représentation de la famille bourgeoise ou encore à une iconographie érotique. Et là, on a donc cette représentation dans le fameux ouvrage de Figuier, publié en 1870, mais qui a eu de très nombreuses reproductions, avec la famille, l'homme regardant vers le lointain et la femme regardant vers le bas, les enfants qui l'entourent, etc. Et là, c'est une illustration d'un livre de Ronnie Henné, qui s'appelle « Les origines ». Et la légende dit « Quand un homme rencontrait une femme, la malheureuse était fécondée sur place ». Le même Ronnie écrit dans Nomailles, Amour lacustre, il raconte une intrigue amoureuse au néolithique, la première, dit-il, de tous les ans, l'origine du baiser. Il y a un long texte que je n'ai pas le temps de vous lire ici. Et cette précieuse publication est prétexte à des illustrations quelque peu lestes. D'autres récits, jusqu'au milieu du XXe siècle, mettent en scène de mièvres figures de femmes dans ces romans d'aventure colorés d'un soupçon d'érotisme. Alors bon, il y a toute une réflexion sur la place des femmes dans la préhistoire chez Simone de Beauvoir, qui n'est pas une réflexion très Très favorable au statut des femmes. Hein. Pour elles, c'est un statut extrêmement misérable, soumis, non créatif, etc. Mais c'est avec l'essor des féminismes américains, dans la deuxième moitié du XXe siècle, que surgit une nouvelle vision dans le roman préhistorique. Après les années 1970, donc, Jean Howell, présente un récit de la vie paléolithique dont l'héroïne est une femme. Et là, fille de la Terre, inaugure en 1980 une série à succès dont l'héroïne est une belle jeune femme, blonde, intelligente, autonome, qui vit des aventures amoureuses et autres dans des environnements qui furent les hauts lieux des cultures du paléolithique supérieur, du Périgord à la Grande Plaine de Moravie et d'Ukraine. Jeune orpheline sapiens, trouvée et élevée par un groupe de Néandertaliens, elle prend peu à peu conscience de sa différence physique et de ses aptitudes particulières, jusqu'à s'affranchir de ce groupe aux mœurs brutales où les femelles sont réduites en esclavage et dominées par les mâles. Si les néandertaliennes parviennent à disposer de quelques pouvoirs, seules les femmes sapiens, dans la vision de Jean Howell, sont réellement capables de s'émanciper. Et il y a dans cette dualité néandertal-sapiens, j'ai pas le temps de vous lire non plus ce texte, mais il y a quelque chose comme une dualité presque raciale, hein, la femme blonde, élancée, et puis la néandertalienne, massive, chevelue, sombre, qui marche bien dans le roman, mais qui donne quand même à voir une certaine vision dans l'Amérique des années 1970 de la primitivité du caractère plus évolué des sapiens. Tel qu'on l'imaginait à cette époque. Alors, beaucoup d'autres fictions et beaucoup d'autres tentatives de mettre en scène les femmes de la préhistoire vont suivre. À partir de 1996, l'artiste plasticienne Errolf Tóthor crée et fait vivre son personnage d'Ava, femme de Cro-Magnon. En 2014, elle décline la vie et les aventures d'Ava dans des ouvrages illustrés de silhouettes gravées en taille douce, dessinées, peintes ou tracées au pochoir. Elle publie le journal intime d'Ava, femme de Cro-Magnon, en 2014, puis toute une série d'autres volumes, toujours illustrés, l'herbier d'Ava, le bestiaire d'Ava, le voyage d'Ava, qui sont des livres d'art en même temps que ce sont des récits inspirés par les savoirs de la préhistoire, en même temps que la silhouette de cette femme préhistorique est inspirée de celle de la Vénus de Lespugue. Bon, c'est une composition artistique, je crois que ça n'a aucune prétention au réalisme. Alors, donc, on assiste ainsi depuis plusieurs décennies à la multiplication des héroïnes féminines, non seulement dans des œuvres destinées aux adultes ou aux adolescents, mais aussi dans celles destinées aux enfants, ce qui est très important parce que on donne dans ces ouvrages qui ont une valeur éducative souvent, on donne accès à une dimension qui s'est fait jour récemment dans la recherche et qui tente de donner aux femmes une place dans ces sociétés qui naguère semblaient seulement habitées par de vaillants et musculeux chasseurs. Alors, je terminerai cette évocation de la place des femmes dans l'imaginaire littéraire par l'évocation du poème d'André Chédide. André Chédide, c'est une poétesse de langue française d'origine syro-libanaise, née en 1920 et morte en 2011, qui est l'auteur en particulier d'un poème intitulé « Lucie, la femme verticale ». Cette œuvre d'une grande force est une célébration de Lucie, la mère ou la grand-mère de l'humanité. Cependant, Chédide termine son poème en disant son vœu d'abolir, d'effacer cette origine qui marque la naissance d'une humanité coupable de toutes les horreurs, de toutes les malfaisances et de toutes les destructions. Et la fin de son poème est un véritable cri désespéré. « Je tuerai Lucie. J'ai décidé de la faire disparaître, de la supprimer, de mettre un terme à cette aventure, d'enrayer une fois pour toutes cette histoire de ténèbres et de sang. Je projette d'abolir notre mise au monde, de rompre ce discours qui mènera là où on sait. » Je vois deuil, je vois sombre, je vois massacre, carnage, souffrance, sans fin. Je refuse de nous engager dans cette action absurde et malfaisante. J'anéantirai Lucie, c'est tout vu, arrêté, je m'y engage. Le seul demeurera en friche, mais innocent. Livré aux seuls animaux, aux végétations luxuriantes, la terre, libérée de l'homme, continuera sur sa lancée à décrire des cercles autour du globe solaire jusqu'à l'extinction prévue. À cette inquiétude de la poétesse de la fin du XXe siècle sur le destin de l'humanité, font écho plusieurs œuvres d'écrivains à partir du milieu du XXe siècle, et en particulier des œuvres de poètes tels que Saint John Peirce, Maurice Blanchot, Georges Bataille, qui, éblouis devant les fresques pariétales de Lascaux, célèbrent les mondes de la préhistoire comme un univers de pureté, d'harmonie, de respect de la nature face aux innombrables dégradations dont l'humanité s'est rendue coupable au cours de son histoire et surtout de son histoire récente. C'est cet appel que lance en 1952 René Char lorsqu'il publie ses cinq poèmes de Lascaux, cinq poèmes sur Lascaux, intitulés La paroi et la prairie. Voici un extrait. Transir, l'âge du renne, c'est-à-dire l'âge du souffle. Ô vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite. Insouciant, nous exaltons et contrecarrons justement la nature et les hommes. Cependant, terreur au-dessus de notre tête, le soleil entre dans le signe de ses ennemis. Aux âges rayonnants de la préhistoire, Char oppose les destructions qui ont eu lieu depuis que la nature a été conquise et plus encore dans un passé récent. Les hommes du XXe siècle ont montré quel pouvoir ils possèdent désormais de détruire en grand leurs semblables et les lieux mêmes de leur existence. Cette inquiétude se prolonge aujourd'hui avec la prise de conscience de toutes les dégradations d'origine anthropique qui affectent notre environnement, comme si les poètes trouvaient dans la préhistoire l'envers d'une époque destructrice et comme s'ils invoquaient les préhistoriques pour nous éclairer de leur lointain sur les failles et les désastres de notre présent. Et ça, c'est le dernier poème de cette série, La bête innommable. La bête innommable ferme la marche du gracieux troupeau comme un cyclope bouffe. Ainsi m'apparaît, dans la frise de Lascaux, mère fantastiquement déguisée, la sagesse aux yeux pleins de larmes. Donc cette fameuse licorne de Lascaux, il la lit comme une figure de la sagesse aux yeux pleins de larmes qui pense déjà depuis longtemps les désastres de notre humanité. Voilà. Alors je conclue, cette préhistoire littéraire dont je vous ai donné quelques aperçus déploie toute la richesse des inventions, des formes et des styles pour évoquer par l'écriture le passé profond de l'humanité. Romans d'amour, d'aventure, romans policiers, textes tour à tour narratifs, poétiques, philosophiques, comiques, oniriques, tendres et graves, auxquels font écho aujourd'hui de nouveaux modes de création et de diffusion sous la forme numérique, filmée, sous la forme de BD ou de podcast. Alors j'ai parlé des inquiétudes de notre temps, j'aurais dû aussi parler de tout un versant comique, hilarant même parfois, de ces récits préhistoriques. Je vais juste vous en dire quelques mots. Vous savez qu'en 1960, Roy Lewis avait inauguré le roman préhistorique comique avec son fameux livre intitulé « What We Did to Father » que Vercors avait traduit brillamment en français 30 ans plus tard sous le titre « Pourquoi j'ai mangé mon père ?». Délaissant les patronymes bibliques, les onomatopées et le lyrisme empoulé des origines, Lewis met en scène des héros aux prénoms distingués, Édouard, Ernest, Mathilde, leur oncle s'appelle évidemment Vania, et il fustige en la ridiculisant l'absurde volonté de progrès prêtée aux préhistoriques par les scientifiques du temps, et évidemment il vise Gordon Child, What Happened in Prehistory. Plus près de nous, Cavana produit une sorte de catéchisme préhistorique qui raconte sur le mode burlesque la naissance d'une conscience vraiment humaine chez les préhistoriques. Tandis qu'Éric Chevillard offre le récit de leurs exploits en les affublant des noms de leurs découvreurs mêmes. Jacques Boucher Crèvecœur de Perthes, l'abbé Henri Breuil et le professeur Leroy Gourhan incarnent tour à tour les stades évolutifs de l'humanité. Je cite: Boucher de Crèvecœur de Perthes était de taille modeste, 1 mètre ou 1,50 mètre, guère plus, et malgré ses 40 kilos, il se déplaçait assez lourdement voûté, la tête dans les épaules basses, une petite tête en broussailles au-dessus de fortes mâchoires très saillantes. Il en résulte un conte désopilant qui met doublement à distance la mythologie de la préhistoire et celle de ses inventeurs, ridiculisant à la fois les récits héroïques de l'évolution humaine et notre fascination à l'égard des préhistoriens. Au renouvellement des sciences de la préhistoire répond ainsi la diversité de la richesse des œuvres qu'elle inspire. Comme les images qui incarnent les êtres du passé, ces récits se transforment avec la science, mais parfois s'émancipent d'elle. Ces textes parviennent à nous livrer parfois une vision plus riche, plus humaine de l'humanité et de ses origines. Mais est-il si important que ce qu'ils nous disent soit vrai ou s'efforce de l'être ? Certains textes, comme The Eternal Lover de Burroughs, Les Innommables de Claude Klotz, Cosmic Comics de Calvino, ne cherchent pas à se légitimer en se conformant à une vérité, à un savoir. Peut-être aujourd'hui d'autres formes, les films, les docu-fictions télévisées, ont-elles pris le relais de cette fonction pédagogique qu'incarnait le roman préhistorique au XXe siècle. L'écriture peut alors se déployer dans l'espace de la fiction, de l'invention, pour donner vie à nos rêves et à nos fantasmes des origines. Je vous remercie.